Chapitre deuxième. Valentine d'Infreville avait 3 ans de plus que Madame de Luceval, et formait avec celle-ci un contraste frappant, quoiqu'elle fût aussi fort jolie. Grande, très brune, très mince, sans être maigre, elle avait de beaux yeux, pleins de feu, aussi noirs que ses longs et épais cheveux, ses lèvres rouges, estompées d'un léger duvet, ses narines roses, dilatées et palpitantes à la moindre émotion, l'excessive mobilité de ses traits, son geste vif, le timbre un peu viril de sa voix de contralto, tout annonçait chez cette jeune femme un caractère ardent et passionné. Elle avait connu Florence au couvent du Sacré-Cœur, où elle s'était liée intimement. Valentine était sortie de cette retraite pour se marier, une année avant sa compagne, qu'elle vint cependant maintes fois visiter au couvent. Mais peu de temps avant son union avec M. de Luceval, Florence, à sa grande surprise, n'avait plus revu son amie, et leur relation s'était dès lors bornée à une correspondance assez rare du côté de Madame d'Infreville, absorbée, disait-elle, par des soins de famille. Les deux compagnes se retrouvaient donc ensuite d'un intervalle de 6 mois environ. Madame de Luceval, après avoir tendrement embrassé son amie, remarqua sa pâleur, son agitation, et s'adressant à elle avec inquiétude, « Mon Dieu, Valentine, qu'as-tu donc ? Ma femme de chambre m'avait dit d'abord que tu désirais me parler, mais que tu ne voulais pas monter chez moi. Tiens, Florence, j'ai la tête perdue, je suis folle. De grâce, explique-toi, tu m'effraies. Florence, veux-tu me sauver d'un grand malheur ? Parle, parle. Ne suis-je pas ton amie, quoique tu m'aies bien délaissée depuis 6 mois ? J'ai eu tort, j'étais oublieuse, ingrate, et pourtant je viens m'adresser à toi. C'est la seule manière de te faire pardonner. Florence, Florence, toujours la même. Voyons, vite, que puis-je faire? Tu as ici ce qu'il faut pour écrire? Oui, là, sur cette table. Écris ce que je vais te dicter. Je t'en supplie, cela peut me sauver. Ce papier est à mon chiffre. Est-ce indifférent? C'est au contraire à merveille, puisque c'est toi qui m'écris. Maintenant, Valentine, dicte. Je t'attends. Madame d'Infreville dicta ce qui suit d'une voix altérée, en s'interrompant de temps à autre, vaincue par l'émotion. J'étais si heureuse de notre bonne et longue journée d'hier, ma chère Valentine, journée qui ne la cédait en rien à celle du mercredi, qu'au risque de te paraître égoïste et importune, je viens encore te demander celle de dimanche. Celle de dimanche, répéta Florence, fort intriguée par ce début. Madame d'Infreville poursuivit sa dictée. Notre programme sera le même. Souligne programme, ajouta la jeune femme avec un sourire amer. C'est une plaisanterie. Puis elle reprit. Notre programme sera le même. Déjeuner à 11 heures, promenade dans ton joli jardin, travail de tapisserie, musique et causerie jusqu'à 7 heures, puis le dîner et ensuite quelques tours d'aller au bois de Boulogne, en voiture découverte, si le temps est beau, et tu me ramèneras chez moi à 10 heures, comme hier. Réponds-moi. Par un oui ou par un non, tâche surtout que ce soit un oui, et tu rendras bien heureuse ta chère Florence. Et tu rendras bien heureuse ta chère Florence, répéta Madame de Luceval en écrivant, puis elle ajouta en souriant à demi, ce qu'il y a de cruel à toi, Valentine, c'est de me dicter de pareils programmes qui ne me donnent que des désirs et des regrets. Enfin, l'heure des reproches ou des explications viendra tout à l'heure, et je me vengerai. « Est-ce tout, ma chère Valentine ? Mets mon adresse sur ce billet, cachette-le et fais-le porter à l'instant chez moi. » Madame de Luceval s'apprêtait à sonner. Une réflexion la retint, elle dit à son amie avec un certain embarras. « Valentine, je t'en supplie, ne prends pas ce que je vais te dire pour une indiscrétion. Explique-toi. Si je ne me trompe, le but de cette lettre est de faire supposer à quelqu'un que nous avons depuis quelque temps passé plusieurs journées ensemble. » Oui, oui, c'est cela. Ensuite, eh bien, je crois prudent de te prévenir que mon mari est malheureusement doué d'une si prodigieuse activité que, quoi qu'il soit presque toujours hors de la maison, il trouve encore le moyen d'être presque toujours chez moi et d'y venir 8 à 10 fois par jour. De sorte que si par hasard son témoignage pouvait être invoqué, il ne manquerait pas de dire qu'il ne t'a jamais vu ici. J'avais prévu ce danger. Mais de 2 dangers, il faut choisir le moindre. Envoie, je te prie, cette lettre à l'instant par quelqu'un de tes gens, ou plutôt non. Il pourrait parler. Fais-la mettre à la poste. Elle arrivera chez moi toujours à temps. » Madame de Lusval sonna. Un valet de chambre entra. Elle allait lui remettre la lettre, mais elle changea d'idée et lui dit « Baptiste est-il là ?»«
Oui, madame la marquise, il est à l'antichambre.
Fais-le monter. » Le domestique sortit. « Florence, pourquoi ce domestique plutôt qu'un autre ?» demanda madame d'Infreville.
« Mon valet de chambre sait lire. Je le crois passablement curieux. Et il pourrait trouver singulier que je t'écrive, toi, étant là. Le valet de pied que j'ai fait demander ne sait pas lire. Il est assez niais, et il n'y a aucune indiscrétion à craindre de sa part. »
« Tu as raison. Cent fois raison, Florence. Dans mon trouble, je n'avais pas réfléchi à cela. »
« Madame la marquise m'a fait demander, » dit Baptiste en entrant dans le salon.
« Vous connaissez bien la marchande de fleurs qui a sa boutique au bain chinois, » dit Florence.
« Oui, madame la marquise. »
« Allez-y, vous m'achèterez deux gros bouquets de violettes de Parme. »
« Oui, madame. » Et le domestique s'en allait.
« Ah, j'oubliais, » dit madame de Lusval en le rappelant. « Vous mettrez cette lettre à la poste. Madame n'a pas d'autre commission ?»«
Non. »
Et Baptiste sortit. Madame d'Infreville comprit l'intention de son ami, qui a vu la précaution de donner comme accessoire la commission principale.
« Merci, merci, ma chère Florence, » lui dit-elle avec effusion.
« Ah, fasse le ciel que ton bon vouloir ne soit pas inutile. »
« Je l'espère, je le désire, mais... » «
Florence, écoute-moi. Ma seule manière de te prouver ma reconnaissance du grand service que tu viens de me rendre est de me mettre à ta discrétion, de ne te rien cacher. J'aurais dû, peut-être, commencer par là, et d'abord te dire le but de cette lettre. Au lieu de surprendre ainsi cette preuve de ton dévouement et de ton amitié, mais je l'avoue, j'ai craint ton blâme et un refus en t'apprenant que... »
Et après un moment d'hésitation douloureuse, Valentine dit résolument, tout en rougissant jusqu'aux yeux,
« Florence, j'ai un amant. »
« Valentine, je m'en doutais. »
« Oh, je t'en prie, ne me juge pas sans m'entendre. Ma pauvre Valentine, je ne pense qu'à une chose, à la confiance que tu me témoignes. »
« Ah, sans ma mère, » reprit Valentine avec angoisse, « je ne serais pas descendu à la ruse, au mensonge. » J'aurais supporté toutes les conséquences de ma faute, car j'ai du moins le courage de mes actions. Mais dans le triste état de santé où se trouve ma mère, un éclat la tuerait. Ah, Florence, si je suis coupable, je suis bien malheureuse, »
dit madame d'Infreville en pleurant et en se jetant au cou de son amie.
« Valentine, je t'en conjure, calme-toi, » dit la jeune femme en partageant l'émotion de sa compagne. « Confie-toi à ma sincère affection. Parle. » Et penche ton cœur dans un cœur ami. C'est du moins une consolation. Je n'ai d'espoir que dans ton attachement. Oui, Florence, je crois, je sais que tu m'aimes. Cette conviction me donne seule la force de te faire un aveu pénible. Et tiens, il en est un autre, dont je vais tout de suite débarrasser mon cœur. Si je suis venu, après une longue séparation, te demander le grand service que tu m'as rendu, c'est moins encore peut-être parce que je comptais aveuglément sur ton amitié que parce que, de toutes les femmes de ma connaissance, tu t'es la seule chez qui mon mari ne fut jamais venu. Maintenant, écoute-moi. Lorsque j'ai épousé M. d'Infreville, tu te trouvais encore au couvent. Tu étais toute jeune fille, et la réserve m'empêchait de te confier bien des choses, de te dire que je m'étais mariée sans amour.
« Comme moi, » murmura Florence.
« Ce mariage plaisait à ma mère et m'assurait une grande fortune. Je cédais malheureusement à l'influence maternelle, et je l'avoue, je me laissais aussi éblouir par les avantages d'une haute position. J'épousais donc M. d'Infreville, sans savoir, hélas, à quoi je m'engageais et à quel prix je vendais ma liberté. Quoique j'aie le droit de me plaindre de mon mari, ma faute devrait m'interdire toute récrimination. Cependant, il faut bien que, sans excuser ma faiblesse, tu en comprennes pour ainsi dire la fatalité. Monsieur d'Infreville est un homme valétudinaire parce que, dans sa jeunesse, il s'est livré à tous les excès. Morose parce qu'il regrette le passé. Impérieux et dur parce qu'il n'a pas ou qu'il n'a plus de cœur. Je n'ai jamais été à ses yeux qu'une pauvre fille sans fortune, qu'il avait daigné épouser pour s'en faire une sorte de garde-malade. Pendant longtemps, j'acceptais ce rôle. Je l'accomplis religieusement, rôle pénible, honteux,
parce que les soins que je donnais à mon mari ne partaient pas du cœur. Mais trop tard, hélas, j'avais reconnu combien ma conduite avait été vile.
Valentine.
Oh non, non, Florence, ce n'est pas trop sévère. J'ai épousé M. d'Infreville sans amour. Je l'ai épousé parce qu'il était riche. Je lui ai vendu mon âme et mon corps. C'est une honte, te dis-je.
Encore une fois, Valentine, tu t'accuses à tort. Tu auras songé moins à toi qu'à ta mère.
Et ma mère songeait bien moins encore à elle qu'à moi. En me pressant à ce mariage, va, Florence. La richesse de M. d'Infreville a rendu ma déférence filiale trop facile. Enfin, je me résignais d'abord à mon sort. Au bout de quelque temps de mariage, mon mari, jusqu'alors trop souffrant pour sortir de chez lui, éprouva une grande amélioration dans sa santé, grâce à mes soins, peut-être. Mais de ce moment, ses habitudes changèrent. Je ne le vis presque plus. Il vivait hors de chez lui, et bientôt j'appris qu'il avait une maîtresse.
Oh, pauvre Valentine!
Une fille connue de tout Paris. Mon mari l'entretenait d'une manière splendide et si ouvertement que j'ai appris ce scandale par le bruit public.
Je hasardai quelques remontrances à M. d'Infreville, non par jalousie, grand Dieu, mais je le priais, par convenance pour moi, de ménager du moins les apparences.
La modération même de mes reproches irrita mon mari. Il me demanda, avec le plus insolent dédain, de quel droit je me mêlais de sa conduite. Il me rappela durement que je lui devais un sort auquel je n'aurais jamais pu prétendre, et que, m'ayant épousé sans dot, il devait se croire à l'abri de mes récriminations.
« C'est odieux, c'est infâme !»«
Mais, monsieur, lui dis-je, puisque vous manquez si ouvertement à vos devoirs, que diriez-vous si j'oubliais les miens ?»«
Il n'y a pas de comparaison à faire entre vous et moi, » me répondit-il. « Je suis le maître, c'est à vous d'obéir. Vous me devez tout, je ne vous dois rien. »
Ayez le malheur de manquer à vos devoirs, et je vous mets sur le pavé, vous et votre mère, qui vit de mes bienfaits.
Ah, c'est trop d'insolence et de cruauté.
J'eus une bonne et honnête inspiration, j'allais trouver ma mère, bien résolue de me séparer à tout jamais de mon mari, et de ne pas retourner chez lui.
Et moi, que deviendrai-je ? Me dit ma mère.
Souffrante, infirme comme je le suis, la misère pour moi, c'est la mort. Et puis, ma pauvre enfant, une séparation est impossible. Ton mari est dans son droit, tant qu'il n'entretient pas sa maîtresse là où tu habites. La loi est pour lui, et comme il a besoin de toi, comme il est accoutumé à tes bons soins, il ne voudra pas entendre parler de séparation, et te forcera de rester avec lui. Fais donc contre fortune bon cœur, ma pauvre enfant. Cette maîtresse ne durera pas toujours. Patience, tôt ou tard ton mari te reviendra. Ta résignation le touchera. D'ailleurs, il est d'une si faible santé que son caprice pour cette créature sera certainement le dernier. Alors tout reprendra comme par le passé. Crois-moi, mon enfant, en pareil cas, une honnête femme souffre, attend et espère.
Comment ? Ta mère a osé te...
Ne l'accuse pas, Florence. Elle avait si peur de la misère, moins pour elle que pour moi, je le répète. Et puis, son langage n'était-il pas, après tout, celui de la raison ? Du droit, du fait, et en tout conforme à l'opinion du monde.
Hélas, il n'est que trop vrai.
Eh bien, soit, me dis-je avec amertume, une fière et légitime révolte m'est interdite. Le mariage ne doit plus être pour moi qu'un dégradant servage. J'accepte, j'aurai la bassesse de l'esclave, mais aussi j'aurai sa ruse, sa perfidie, son manque de foi. Après tout, la dégradation de l'âme a du bon, elle bannit tout scrupule, anéantit tout remords. De ce moment, je fermai les yeux, et au lieu de lutter contre le courant qui m'entraînait à ma perte, je m'y abandonnai.
Que veux-tu dire ?
C'est maintenant, Florence, que j'ai besoin de toute l'indulgence de ton amitié. Jusqu'ici, je méritais quelque intérêt, peut-être, mais cet intérêt va cesser.
L'entretien des deux amis fut alors interrompu par la femme de chambre de Madame de Luceval.
« Que voulez-vous ? » lui demanda Florence. « Madame, c'est une lettre qu'un commissionnaire vient d'apporter de la part de monsieur. Donnez. Voici, madame. » Après avoir lu, Florence dit à son amie « Peux-tu disposer de ta soirée et dîner avec moi ? Monsieur de Luceval me fait savoir qu'il ne dînera pas ici. » Après un moment de réflexion, Madame d'Infreville répondit « J'accepte, ma chère Florence. Madame d'Infreville dînera avec moi, dit madame de Lusval à la femme de chambre, et faites dire à ma porte que je n'y suis absolument pour personne.
Oui, madame, répondit mademoiselle Lise,
et elle sortit.